Hi everybody, welcome to Hafed's Coffee Break, episode number 4. On this occasion, we will be speaking in French. Donc bonjour à tous et bienvenue à ce podcast en français cette fois-ci. Nous allons parler de l'anxiété et des problèmes de santé avec mon invité d'aujourd'hui, ma sœur Yemina, ou Loïda Yemina, qui est son nom complet. Donc si je me réfère à elle comme Loïda, on parle de la même personne, ou Yemina. Donc comment vas-tu Yemina?
Ça va bien toi?
Ça va bien, merci. Victor, mon sidekick, comment vas-tu?
Très bien, très bien.
Très bien. T'es prêt?
Oui.
Ouais. Ouais, pour une autre édition. On est revenu au café cette fois-ci?
Oui, un petit peu de café. Il n'est pas 8 heures de la nuit où je ne peux pas dormir.
OK, donc là, on a essayé d'enregistrer ça un peu plus tôt pour que le café soit mieux.
Ouais.
Donc, pour que Victor puisse suivre
dormir,
le concept.
Bien, ouais.
Donc, oui, donc il y a des gens qui ne boivent pas le café le soir, c'est correct, ça peut être le thème de notre podcast. Mais cette fois-ci, on va parler de l'anxiété, comme j'ai dit, et des problèmes de santé. J'ai servi à Yemina un café espresso qui a été fait à la méthode italienne, donc ça veut dire avec l'infuseur italien, donc tu mets l'eau à l'intérieur, ça passe par le filtre une fois que l'eau bouillit, et tu fais ça sur le four, ben, sur le... La cuisine. Comment on appelle ça? La cuisinette. Bon, bref, tu la mets sur la poêle, puis ça...
Sur la poêle.
La poêle, comme on dit en bon québécois. Donc, et ça fait bouillir l'eau afin que le café ressorte par en haut. Donc, comment est ton café, Yemina?
Délicieux.
Délicieux. Donc, comment tu prends ton café à l'habitude?
Ah, c'est un café noir. Ou un double expresso, espresso, mais okay. Noir.
Donc, un café noir. Donc, on peut dire que ce que j'ai fait, c'est un double espresso en ce qui est de quantité. Je me suis fait aussi un espresso et je me suis fait un café glacé de la même sorte que j'ai fait à Victor, un mocha glacé. Et c'est délicieux. Donc, je vous invite à tous de prendre votre café, prendre ça relax si vous êtes en train de conduire, écouter. Et prenez part de la discussion dans nos réseaux sociaux. Suivez-nous à Hafed's Coffee Break sur Instagram, sur Facebook et Jeff's Coffee Break sur Twitter. Donc, on est actif et on attend vos réponses ou vos commentaires sur ces réseaux pour que vous puissiez enrichir cette discussion. Donc, on parle d'anxiété. Donc, personnellement, moi, j'ai vécu ou je vis avec de l'anxiété à tous les jours. À plusieurs niveaux, en fait, et je faisais une recherche. Mais avant de vous parler de la recherche que j'ai faite, je voulais vous demander, est-ce que vous avez de l'anxiété? Donc, premièrement, Victor, est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir de l'anxiété?
Je pense que oui. Je ne sais pas dans quoi vraiment ou... Je pense que ça dépend de ce que je fais. Si je suis au travail, j'ai un peu d'anxiété d'arriver à temps. Ça, c'est moi. À chaque fois, n'importe où, si je dois arriver à temps... Ça me donne un peu d'anxiété si j'arrive pas à temps.
Okay.
Mais en vie en général, je vis pas d'anxiété à chaque jour.
Okay.
Ça m'arrive pas d'avoir des pensées de t'sais, anxiété ou choses comme ça. Mais vivre ça chaque jour, non.
OK. Ouais. Super. Et toi, Yemina?
Oh oui.
Oui. Donc, c'est pour ça que tu es mon invité d'aujourd'hui. Merci d'être là et de partager avec nous, dans le fond, ce que tu vis avec l'anxiété, avec la santé et tout ça. Et on va parler aussi, je vais parler aussi de ma personne, de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, on a des différents types d'anxiété. Et ce que ma recherche disait, c'était que tout le monde vit de l'anxiété dans la vie. Donc, si tu es quelqu'un qui a tout récemment découvert que tu vis de l'anxiété, ben sache que c'est normal, tout le monde vit de l'anxiété. Et c'est sûr qu'il y a des différents degrés d'anxiété, donc il y a des degrés un petit peu plus forts ou plus présents dans la vie. Comme disait Victor, il y a des moments qu'on va vivre une anxiété, on va arriver en retard, donc il y a une petite pression, une anxiété. Tu commences à penser à qu'est-ce qui se passe si jamais je n'arrive pas à l'heure? Est-ce qu'ils vont me renvoyer? Est-ce qu'ils vont me donner un avertissement? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça génère une genre d'anxiété. Si tu as un examen, tu te prépares pour l'examen, tu te dis, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je vais tout oublier. Il y a plusieurs choses qui peuvent passer par ta tête. Des choses qui ne sont pas arrivées, c'est la différence avec la peur. D'accord? Donc, si tu ne sais pas trop. Il y a deux termes, non? Donc, il y a la peur et il y a l'anxiété. La peur, c'est, admettons, tu te trouves devant un animal, un ours ou peu importe, là, tu vois, c'est normal que tu aies peur. Donc, la peur, c'est de quelque chose qui est réel, un danger réel que tu es en train de vivre, une situation qui va te faire vivre des sentiments, tu vas suer, tu vas, ton cœur va commencer à battre plus vite, tu vas commencer à avoir des... Tu vas le sentir dans ta peau, si on peut dire ça comme ça, ou dans ton corps. Et c'est la même chose qui arrive, par exemple, comme je disais, tu vois un ours, tu es devant lui, puis tu ne sais pas trop comment agir, tu vas avoir une anxiété. Et on te recommande pas de partir en courant. C'est la première, le premier instinct qu'on va avoir, n'est-ce pas, de vouloir courir. L'anxiété, par contre, c'est des choses qui ne sont pas un danger à l'instant ou quelque chose que l'on voit. Ça, c'est plus dans un sens imaginatif, si on peut dire ça, parce que tu t'imagines peut-être les conséquences de tes actions présentes. Okay, donc, qu'est-ce qui... Tu n'es pas encore arrivé en retard, par exemple, Victor, comme tu disais. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui va arriver si j'arrive en retard? Tu n'es pas encore arrivé en retard. Tu n'es pas encore arrivé au travail. Tu as encore la possibilité que tu arrives à l'heure, mais il y a peut-être une petite possibilité que tu arrives en retard. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et là, tu commences. C'est là qu'il y a comme une peur qui embarque.
Oui, c'est ça la différence entre anxiété et stress. Parce que stress, c'est quelque chose qui arrive durant... ben, comme quelque chose arrive, et ça, ça t'envoie que tu as du stress.
Oui.
Et après, si tu continues, oh, t'es pas encore arrivé en retard, tu penses pas que tu vas arriver en retard, mais juste parce que tu penses que tu vas arriver en retard, ça me génère mon anxiété.
Ton anxiété,
oui. Ok, je vais arriver en retard, mais j'ai encore une heure avant d'arriver là. Je vais arriver 40 minutes tôt, juste pour que j'arrive pas en retard et je suis pas anxieux d'être en retard.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est difficile à faire le lien ou faire la coupure entre la peur et l'anxiété ou même le stress, l'anxiété. Ouais. Et c'est des mots qui s'interchangent par moment.
Ouais.
Puis c'est là le danger parce qu'il y en a surtout, il y a plusieurs gens qui disent « Ah, mais moi, je vis d'anxiété intense. » Puis ça peut que ça soit un stress. Ça peut que ça soit quelque chose d'autre qui génère ça. Donc, c'est super important d'arriver au point de dire « Ok, qu'est-ce qui fait en sorte qui me génère l'anxiété?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui a provoqué cela? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, oh, ça, c'est en train de me générer de l'anxiété? » Puis commencer à mettre des mots, c'est très difficile parce qu'on ne veut pas non plus mettre une sorte d'étiquette, de dire mm-hmm. « je suis quelqu'un d'anxieux,
ouais.
je suis quelqu'un de stressé ». C'est comme, non, on vit des choses qui nous génèrent des émotions, comme tu peux être content, mais on n'entend pas souvent dire « Ah, oh, cette personne-là, c'est une personne contente.
Mm-hmm. »
Mais on a tendance à dire « C'est une personne stressée, c'est quelqu'un d'anxieux. » Mais on ne le fait pas pour les choses positives. On met l'étiquette dans les étiquettes négatives, si on peut dire ça comme ça. C'est comme ça qu'on se rappelle le plus. Donc, Yemina, comment toi, tu t'es rendu compte que tu vivais une anxiété ou tu t'es dit « Ah, oh, là, je pense que je commence à vivre de l'anxiété. » Qu'est-ce qui a généré ça ou comment tu as découvert ou... Qu'est-ce qui t'a amené dans cette réflexion-là de dire « Ok, je pense que je suis une personne qui vit avec de l'anxiété. »
Avec le recul, je me suis rendu compte que mon anxiété a commencé en 2015 lorsque j'ai eu un diagnostic médical qui a comme tout changé ma vie, si on peut dire ça. Je me rappelle, j'étais assise au bureau du médecin. C'était pas au Canada, fait que c'était encore plus bizarre, si on peut dire, parce que t'es hors de ton contexte, t'as pas tes personnes sûres à côté de toi non plus. Fait que tout à coup, le diagnostic tombe, t'as les ovaires polykystiques, ça se peut que t'as eu plus d'enfants, que tu sois pas en mesure d'avoir des enfants, pardon. Puis il y a d'autres explications qui viennent avec, mais dans ma tête, ça s'est arrêté à tu pourras peut-être pas avoir des enfants.
Mm-hmm.
Fait qu'à partir de là, ça a amené une autre anxiété, puis ça a commencé l'anxiété, en fait. Puis ça l'a amené beaucoup de stress et tout ce qui vient avec, malheureusement.
Ouais. Puis donc, toi, tu as réussi à décortiquer tout ce qui s'est passé et dire, OK, c'est à partir de là que tu as commencé à penser à des conséquences ou à des choses qui ne sont pas arrivées encore. Mais tu t'es dit, oh, ça, c'est très fort probable que ça va arriver. Qu'est-ce qui va se passer au moment que je vais devoir faire face à cette situation-là?
Exactement. Il y a plein de scénarios qui sont possibles dans la tête. Puis je pense qu'aussi, en tant qu'être humain, c'est plus facile de visualiser le négatif puis toujours penser au pire. On va pas sortir le meilleur là-dedans non plus. Fait que l'anxiété a vraiment commencé à ce moment-là.
OK. Puis quand tu commences à avoir de l'anxiété, tu commences à voir tout dans un filtre, si on peut dire ça, qui va perturber ton jugement. Tu vas commencer à perturber même la façon que tu vois même la vie. Tu peux même voir les choses complètement différentes à ce que tu vivais avant, par exemple. Mm. Dans ton cas, c'était un diagnostic. Ouais. Dire, OK, les ovaires polykystiques, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Ben, je vous invite à aller chercher sur Google, savoir c'est quoi. Tout ça, on ne va pas rentrer dans toute cette explication-là parce que c'est quand même assez complexe. Mais ça joue aussi avec les hormones, ça joue aussi avec l'humeur, ça joue aussi avec plusieurs choses, avec tes relations, avec des amis, avec la famille. Il y a plusieurs choses qui viennent rentrer en ligne de compte. Mm. Pour ceux qui ne savent pas, ben, je vous invite encore une fois à aller vérifier tout ça. Mais donc, tout ça, c'est super important. Puis ce que je trouve super intéressant, c'est que tu réussis à pointer et dire ça, c'est ce qui a commencé à définir ma façon de voir les choses ou définir comment j'agis à un certain moment. Et souvent, parce que tu n'es pas la seule qui vit avec ça, et je suis sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va peut-être t'écouter et dire hey, « moi aussi, ils m'ont dit ça », puis ça peut peut-être aider la personne. Mais qu'est-ce que tu pourrais recommander ou qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, dire « OK, avec ton expérience, avec le moment, parce que tu as eu le diagnostic à tes 23 ans, c'est ça? »
Oui.
Donc, tu as eu tes diagnostics à 23 ans et maintenant, avec le temps, avec le recul, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui vient d'avoir ce diagnostic ou un diagnostic similaire, si on peut dire ça?
Premièrement, c'est de prendre le temps d'accepter que c'est la réalité. Puis de t'entourer de personnes qui vont être en mesure de t'accompagner dans le processus sans jugement, puis... Il faut juste faire attention à qui qu'on va en parler. Mm-hmm. Parce qu'il y a du monde avec qui tu vas en parler, puis que ça va, tout à coup, ça va juste revenir sur « Oh, faut que tu crois plus en Dieu. »« Attends ton miracle. » Plein d'affaires. Ou juste comme « Mais non, c'est juste hormonal, ça va passer. » Est-ce que tu as déjà vu un médecin pour ça? Est-ce que tu es médicamenté? « Oh, it's in your head. » Plein d'affaires. Puis moi, je suis vraiment reconnaissante parce que dans mon processus, il y a eu ma famille, veux pas, qui m'a accompagnée, des amis proches. Puis j'ai appris aussi, justement, à « OK, cette personne-là, je peux pas en parler.
Ouais. »
Parce que des fois, c'est en parlant avec la personne qu'après ça, j'étais plus dépressive par rapport à ce que je vivais. Déjà que là, je le vivais pas bien.
Mm-hmm.
Fait que moi, je te dirais vraiment, c'est entoure-toi de bonnes personnes, prends le temps de vivre. Puis si t'as un deuil à faire dans n'importe quoi, fais juste le vivre puis prends le temps qu'il faut.
Mm-hmm.
Parce que sinon, il y a une pression sociale, malheureusement, que tout doit être fait vite, qu'il faut que tu t'en remettes vite. Non, c'est quand même un gros diagnostic. Prends juste le temps de le vivre, puis c'est correct.
Mm-hmm.
Puis tu le sais, t'es au courant, là, mes hormones, des fois t'arrivais, j'avais juste pas envie de parler ou quoi que ce soit. Fait que je pense que dès qu'il y a du monde alentour de toi qui sont au courant, sont en mesure aussi de faire comme... Je ne vais pas lui demander comment ça va parce que clairement que ça ne va pas.
Mmh. Ouais.
Fait que des fois, juste de dire comme... D'être en mesure d'être moi-même avec du monde clé, c'est juste priceless pour moi.
Mmh.
Mais c'est vraiment de m'attacher. Puis c'est sûr que ma relation avec Dieu là-dedans m'a aidé énormément. Je t'enlève pas le fait que j'étais fâchée contre Dieu pendant un bout. Puis c'était juste le temps de comprendre comme... Pourquoi à moi? Pourquoi ça se passe? Pourquoi tout ce processus-là? Mais vraiment, c'est ça. Avoir des personnes clés, relations avec Dieu, puis être bien entouré.
OK.
Petite question. Est-ce que maintenant, sachant ton anxiété et tout, est-ce que tu es contente de savoir que tu es une personne anxieuse? Maintenant que tu sais c'est quoi et tu sais pas quelque chose d'autre dans ta tête?
Est-ce que je suis contente? Non. Mais c'est juste, pour moi, ça a été pratique de pouvoir mettre un mot au sentiment que j'avais et surtout de trouver la cause.
Ouais.
Que c'était pas juste de nulle part, puis pas... À un moment donné, quand t'es dans tout ce processus-là, tu crois même que t'es folle.
Mm-hmm.
Pourquoi je me sens comme ça? Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est mes émotions? Il y a juste le fait de pouvoir dire, OK, ceci me rend anxieuse, ça a venu diminuer beaucoup de choses.
C'est ça que je voulais dire, que maintenant que tu sais que c'est ça, ça donne plus comme un guide.
Oui.
Que juste vivre sans savoir qu'est-ce que t'as ou est-ce que toi t'es folle, est-ce que je suis folle, whatever.
Yeah.
Ouais, juste comme ça.
Ouais. Ouais, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui est au courant, tu sais. Mm-hmm. Puis mon frère est vraiment témoin, là, tu sais. je peux être de super bonne humeur, puis une minute après, on dirait que je suis bipolaire, là. Ouais. Mais je ne suis pas bipolaire, c'est juste les hormones qui font en sorte que c'est ça.
Puis quand tu mentionnais des gens justement qui venaient et te disaient « Ah, oh, tu sais, ta relation avec Dieu doit être bonne » et l'intention, elle est bonne. Souvent, quand on dit « Oui, oui, non, il faut que tu sois proche de Dieu. » Puis c'est vrai, il faut que tu sois proche de Dieu. Mais quand le commentaire vient d'un autre côté ou d'une autre perspective, quand on dit « Ah, oh, mais attends ton miracle » ou « Non, Dieu a quelque chose, oh, Dieu peut-être que... » Puis souvent, ça te donne un espoir pour quelque chose, puis ça fait que ton deuil de ce que tu es en train de vivre soit plus long aussi.
Mm.
Puis je dis pas de lâcher prise, parce que si Dieu veut te donner un enfant, ben Dieu va te donner un enfant. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les gens viennent et te disent « Non, c'est ta foi, il te manque de foi. Non, dans la parole, ça dit de pas vivre de l'anxiété. Non, dans la... » Puis tu dis « Ok, c'est vrai, dans la parole, ça me dit de vivre... à chaque jour, l'instant présent, pratiquement, et de ne pas s'inquiéter pour le demain.
Ouais.
Mais en même temps, en étant humain, on est toujours tenté de se dire, ben, qu'est-ce qui va se passer demain? Et personne ne le sait, qu'est-ce qui va se passer demain. On peut avoir des plans, puis c'est ce qu'on disait même en début. Dire, on a des plans, on se prévoit quelque chose, et là, boum! Exemple, maintenant, avec la COVID, ça fait ça a tout changé. Les plans ont tout changé.
Ouais.
On ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer ou comment on allait réagir comme société. On ne savait pas comment nous, on allait être affectés personnellement. Alors, imagine avec tout ça, de dire, OK, ben, il ne faut pas qu'on pense qu'on va être là pour toujours puis qu'on va, on a le lendemain pour sûr ou assuré, non? Et ce que tu dis, ben, c'est ça, c'est difficile à avaler des fois. Parce qu'on se dit, ces gens-là qui nous entourent, on s'attend peut-être à ce qu'il y ait plus de compréhension, qu'il y ait plus de « OK, non, ouais, on va être avec toi, on va prier avec toi, puis que la volonté de Dieu soit faite. » Mais souvent, la volonté de Dieu ne va pas nécessairement avec notre volonté.
En effet.
Souvent, on se dit « Ben, pourquoi? Moi, je veux ça. » Puis tu regardes qu'est-ce que je fais dans l'église, parce que toi, tu es super active à l'église, tu travailles beaucoup, puis tu sais, on ne va pas rentrer dans les détails, mais... tu prends beaucoup de place, tu fais beaucoup de travail avec la jeunesse de l'église, la chapelle. Et dans le fond, c'est comprenable que tu arrives à un moment de dire, oh, je me fâche avec Dieu, de dire, pourquoi Dieu, si moi j'essaie de faire les choses correctement, et puis tu viens, puis tu me donnes un diagnostic ainsi qui vient changer ma façon de penser, qui me génère de l'anxiété. Et qui, cette anxiété-là se développe, n'est-ce pas? Parce que c'est pas juste ce moment-là que tu as de l'anxiété, ça t'a développé à plus d'anxiété à d'autres niveaux. Est-ce que tu veux parler un petit peu plus des autres niveaux dans lesquels cette anxiété-là t'a affecté, si on peut dire ça, ou comment ça s'est développé après ça?
C'est sûr que ça, c'est le premier diagnostic que j'ai eu, c'était à 23 ans. Après, j'en ai eu un autre il y a 3 ans. Que ça est venu, mettons, confirmer le tout. Ça s'appelle endométriose. Puis avec ça, j'ai vraiment... Là, ça a comme changé complètement parce que ça a comme... C'est venu confirmer le fait comme t'auras pas d'enfant.
Mm-hmm.
Fait que je pense que l'étiquette t'auras pas d'enfant est restée sur moi trop longtemps.
Mm-hmm.
Quand j'ai eu le diagnostic, le deuil au complet, tout le processus. Fait que c'est sûr que moi, qu'est-ce qui m'a affectée, c'est plus au long terme. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir avoir une relation? Au niveau des, tu sais, baby shower, annoncement de grossesse, il y a du monde qui se privait de venir me dire « Hey, je suis enceinte.
»
Parce qu'ils avaient peur de comment moi j'allais réagir. Et j'apprécie totalement. Et je me rappelle clairement d'un moment où ce que quelqu'un qui était très proche de moi m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais super contente pour elle. Mais en même temps, il y a eu une tristesse qui est venue m'envahir que je comprenais pas. Puis je me rappelle, j'ai quitté les lieux et j'ai appelé ma meilleure amie. Puis j'ai dit, ça m'énerve. Je suis super contente pour elle, mais présentement, on dirait que ça revient dans ma face, que je peux pas. Puis j'ai dit, moi, je vais être en mesure de me réjouir à 100% pour les personnes qui sont autour de moi ou n'importe qui m'annonce qu'il va avoir un enfant. Je veux pas que ça m'affecte à long terme. Fait que c'est des petits trucs comme ça que dans le processus, je me suis rendu compte, OK, il faut que moi, je travaille là-dessus, de faire comme, d'accepter mon deuil et d'accepter que d'autres personnes vont peut-être avoir le rêve que moi, j'aurais pas.
Mm-hmm.
Fait Fait que c'est plus à des longs termes, des pensées, des rêves que tu vois qui s'écroulent un à la fois. Mais c'est ça.
Ouais. Puis, wow, c'est incroyable de voir justement le parcours que ça t'amène à réfléchir et tout ça, parce que ça, c'est des années d'expérience, de douleur, de comment on peut dire ça, de négociation avec toi-même, pratiquement, de dire, OK, il faut que j'accepte ça, il faut que je mette tout sur la table, puis que je parle de qu'est-ce qu'il y en est, parce que tu peux pas simplement dire, OK, ben, je pense que c'est ça, puis on verra qu'est-ce qui se passe. Non, c'est des choses qu'il faut que tu mettes sur la table, puis que tu l'adresses, même si tu es seul, encore plus avec des amis, puis pouvoir parler, de dire, OK, c'est ce que je suis en train de vivre, c'est les sentiments que je suis en train de recevoir, puis c'est ce qui va justement t'aider à faire face à ces anxiétés-là. Et c'est comme ça que tu as réussi à faire face à toutes les anxiétés, n'est-ce pas, de travailler avec tout ça, parce que, en tout cas, c'est ce qu'on recommande comme pour faire face à l'anxiété et dire, savez-vous quoi, l'anxiété, c'est une émotion qu'on a tous le droit de vivre et qu'on vit tous à un certain moment, puis qui est nécessaire pour tout, comme on disait, même pour un examen ou pour réussir à faire quoi que ce soit dans la vie. Il faut qu'on ait une certaine anxiété pour arriver à faire les choses.
Ouais.
C'est ce qui va nous pousser à dire, il faut que je fasse ça parce qu'il y a telle chose qui va arriver si je le fais ou si je ne le fais pas.
Ouais.
Donc, on a besoin de ça, puis c'est dans notre tous les jours, c'est tout le monde.
Mm-hmm.
On ne s'en rend pas compte, mais on sait qu'on doit faire des choses pour une raison.
Ouais.
Puis des fois, il y a des gens qui vont penser plus à, mais qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Il y en a d'autres qui vont penser plus à « il faut que je le fasse » parce que pour telle raison, par exemple.
Ouais.
Donc, c'est des choses qui vont venir changer notre façon de voir. Puis, il faut prendre le temps vraiment de mettre tout sur la table puis dire « OK, donc c'est ce qui m'a généré de l'anxiété. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour essayer de vivre avec ça? » Même pas le combattre. Je ne veux même pas utiliser le mot « le combattre » parce que quand on parle de combattre, on met comme si l'anxiété est notre ennemi, puis ce n'est pas le cas. Et l'anxiété est une émotion. Puis c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme une émotion, comme être content, être fâché, être heureux, je ne sais pas. Il y a tellement d'émotions qu'on peut sortir, mais l'anxiété est vraiment une émotion et on oublie parfois qu'on a le droit de la vivre.
Ouais.
Puis on a le droit de dire, OK, tu sais quoi, il y a des moments dans notre vie qui vont générer cette anxiété-là. Par exemple, parler devant du public, parler, OK, tu as quelque chose à parler, tu es devant ta classe et il faut que tu fasses une présentation. On est nerveux. On dit souvent, oh, je suis nerveux. Je dois aller aux toilettes, je sais pas, mes jambes tremblent. Il y a une anxiété. Ça, c'est de l'anxiété, un stress qui génère une sorte de peur devant tout le monde.
J'ai trouvé une définition.
Oui.
J'ai trouvé que c'est un site du Québec. Le stress est en biologie l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou à des contraintes de la part de son environnement. Ces réponses dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Le stress est une réaction physique, chimique et émotionnelle, et notre corps a une situation excitante, troublante ou confuse. Le stress est différent que l'anxiété. Celle-ci est une émotion, alors que le stress est un mécanisme de réponse pouvant amener à différentes émotions, dont l'anxiété.
C'est ça. Donc, puis souvent, on l'interchange. Puis c'est là qu'on dit, ah, tu sais, ouais, je stresse, puis blablabla. Puis ça me génère de l'anxiété. Puis ça, c'est là. L'anxiété, c'est vraiment quand tu penses à quelque chose qui n'est pas en train d'arriver. Tu es déjà en train de le vivre.
Ouais.
Puis souvent, comme je disais, quand on parle devant des gens, on a tellement peur du ridicule. Ou de qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils vont ils vont rire de moi si je me trompe? Est-ce que... peut-être que j'ai utilisé mal un verbe, ils vont dire, oh, il ne sait même pas parler en français, il ne sait pas parler en anglais, il sait pas. Puis là, on se met de la pression sur des choses qui n'existent pas encore. Mais on dit, on a peur de, par exemple, tu dois aller donner une conférence ou tu dois aller présenter quelque chose et tu dois montrer 3 marches. Juste de penser aux 3 marches, il y a des gens qui vont générer une anxiété de dire, moi, je ne veux pas tomber. Ils vont penser à tomber, ils vont être déjà nerveux. Ils ne sont pas encore tombés. Mais ils sont déjà en train de penser à la possibilité de « si je tombe, tout le monde va rire, et là, je vais oublier tout ce que j'ai à dire ». Donc, c'est des choses qui vont générer de l'anxiété et ça va occasionner que ton corps réagisse parce que ton corps va être en alarme, en stress. Il va réagir comme dans la même situation qu'on disait devant un ours quand tu as la peur que tu dis oh, « ton corps va réagir d'une façon comme si tu es en train de vivre la situation ». Donc, Je pense que tous, nous vivons quelque chose de semblable. On a tous une peur, une crainte ou quelque chose qui nous génère une anxiété. Et c'est très difficile d'y faire face. Mais quel autre moyen as-tu trouvé, mettons, pour dire, OK, maintenant, parce qu'il y a la foi, il y a l'anxiété, puis comment tu as réussi à gérer tout ça, puis dire, OK, bon, un petit balance de où est-ce que je m'en vais avec ma vie, avec tout ça, comment je vais pouvoir essayer d'avoir un semblant de contrôle sur cette anxiété-là, qui était peut-être à un moment donné un peu sans être contrôlée ou peut-être avec un semblant de incontrôlable.
Bien, comme j'ai dit tantôt, c'est en m'entourant, premièrement, avec du monde avec qui je pouvais être vraie, puis juste comme vraiment pas de filtre. Ça m'a aidé énormément. Ce qui m'aide beaucoup, c'est que je prends mon temps à chaque matin pour écrire, puis juste écrire mes émotions, juste le sortir. Parce que même si tu parles avec quelqu'un, tu dis pas tout.
Mm-hmm.
Fait que juste de pouvoir mettre sur papier, moi, ça, c'est comme ça me décharge énormément.
Mm-hmm.
C'est ce qui m'aide. De parler avec du monde qui vivent la même situation également.
Mm-hmm.
Je trouve que c'est trop tabou, malheureusement, anxiété ou endométriose ou ovaire polykystique. C'est trop tabou, on n'en parle juste pas.
Mm-hmm.
On ne sait pas qui en souffre, on ne sait pas. Puis à un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est normal que je vis tout ça, que je ressente? Fait que moi, ça c'est vraiment des choses qui m'ont aidé à juste comme m'en remettre. Puis à juste accepter de vivre l'émotion présente. Mm-hmm. Parce que c'est pas à tous les jours que je m'en rappelle, mettons. C'est pas tous les jours que l'anxiété refait face par rapport à ça. Fait que juste de vivre le jour. Puis si jamais j'ai une émotion qui revient à cause que j'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, juste de le gérer à ce moment-là.
Mm-hmm.
Puis si c'est vraiment hors de mon contrôle, je prends le temps premièrement de m'arrêter puis prier. Puis si ça continue, j'essaye de juste ventiler à une autre personne qui est en mesure de comprendre, puis qui va pas me juger également.
Mm-hmm. Ouais.
Parce que c'est dans ces moments-là que t'as pas besoin d'entendre « Tu parles encore de ça? »
Non, c'est ça.
Ouais.
T'as besoin de quelqu'un qui peut comprendre. Qui ouais. peut... Et souvent, on tend à vouloir trouver quelqu'un qui peut comprendre ou se mettre à notre place. Et mm-hmm. c'est tellement difficile de pouvoir dire qu'est-ce qu'on ressent.
Exact.
Et c'est incroyable parce que moi, je vis une anxiété aussi un peu différente. Puis c'est peut-être ridicule quand j'en parle. C'est quelque chose que j'ai parlé justement avec ma femme parce que des fois elle me parle de quelque chose ou elle va m'appeler. Elle va juste dire oh, j'ai fait. Puis là, elle va dire quelque chose ou elle va pas finir sa phrase. Et là, moi, je suis comme hein? Quoi? Non, rien, laisse faire. Mais moi, le rien laisse faire, ça me génère un attends, c'est quoi qui se passe? Elle a peut-être faim. Elle a peut-être ci. Elle a peut-être ça. Elle veut. C'est quoi qu'elle voulait dire? C'est quoi? Elle a-tu besoin d'aide avec quelque chose? Est-ce qu'après elle va me dire, oh, j'allais te le dire, mais je te l'ai pas dit. Mais c'est que moi, je m'en vais avec ouais. mon anxiété. Je m'en vais à où est-ce que ça en allait avec ça. Ouais, donc là, avec le temps, elle s'est rendue compte que elle avait besoin de finir sa phrase ou de me redire, dire, ok, ça, mais c'est beau. Je m'en occupe. Tout est correct. Ou non, finalement, j'en aurais pas besoin. Donc moi, j'ai besoin de ce sentiment-là de compléter la phrase ou de me sentir, OK, bon, j'ai rien manqué. Ou des fois, si elle dit quelque chose et tourne la face, puis là, ouais, mais c'est parce que là, puis là, elle continue à parler comme ça, super loin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, genre, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas compris. Tu parlais quand on marche à l'extérieur et elle tourne le visage et je suis comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis je suis vraiment perdu. Ça me génère une anxiété. Et j'essaie de travailler là-dessus. Et une des choses que j'ai dû apprendre à vivre, c'est qu'il y a des choses que je ne vais pas comprendre ou il y a des choses que je vais pas être capable de tout écouter ou de tout entendre. Mais c'est très difficile. Oui. Moi, c'est des genres d'anxiété qui me perturbent un peu. Donc, le moment de ne pas comprendre quelque chose, ça me frappe à ce niveau-là. Mais sinon, aussi, comme dans ce qui est santé, j'essaie de ne pas trop m'en faire avec ça, mais tout ce qui est avec la COVID, c'est sûr que ça m'a généré beaucoup d'anxiété et je pense que ça l'a fait ça avec pas mal tout le monde.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui se passe si jamais je l'ai, puis là, il faut oui. que je fasse 14 jours en exclusion ou tu sais, vraiment genre en quarantaine. Et où est-ce que je m'en vais? Moi, j'ai commencé à penser, mais où est-ce que je m'en vais? J'ai nulle part où aller, où est-ce que je vais aller en quarantaine? Je ne veux pas infecter ma femme qui est enceinte. Je ne veux pas infecter ma famille qui... Donc, il y avait comme plein d'éléments que j'étais comme, où est-ce que je m'en vais? Je vais m'acheter une tente puis je vais me mettre dans le stationnement en face de la maison, je ne sais pas. Donc, c'est des choses que j'avais déjà commencé à penser, des choses qui n'étaient pas arrivées. Puis, à un certain moment, j'ai dû dire, bon, ben on verra rendu là. T'sais, on verra si jamais ça arrive. Ben là, je vais dealer avec les choses. Mais ça a pris beaucoup de mon énergie de vraiment faire comme, OK, il y a des choses qu'on va les gérer au moment qu'on va y arriver.
Ouais.
Un autre exemple, puis ça, je parle, puis je pense que peut-être les hommes à la maison, ou je ne sais pas qui peut me rejoindre là-dessus, ou peut-être même des femmes, je ne sais pas. Mais admettons, OK, on est en train de faire quelque chose, je ne sais pas si ça t'arrive, Victor, mais je fais quelque chose à la maison. Elle me dit, oh, il faudrait mettre une tablette ici, on va faire ci, on va faire ça, OK. Puis là, je suis en train de le faire. J'ai pas fini encore de faire ce que je suis en train de faire. Et là, elle est déjà en train de parler du prochain projet. OK? Donc là, moi, je suis perdu. Là. Moi, je suis OK, non, attends, je suis en train de faire ça ici. Mais est-ce qu'on peut parler de ça après? Ou est-ce qu'on peut, comme, parce que mon attention, moi, j'ai essayé de trouver une solution pour l'autre chose. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement? Ça se peut que ça soit pas correctement. La planche, ça va sûrement être un peu déniveau. Là, donc, ça va pas être bien nivelé. Donc, c'est des choses comme ça. Je finis quelque chose, puis là, je suis comme, bon, OK, bon, je vais faire ça, je relaxe, je m'assois, puis finalement, oh non, il faut faire ça aussi. Ah, OK, donc il y a un sentiment d'incomplétation des choses. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais où j'en ai inventé un, mais c'est un sentiment de que je ne me sens pas complet tant que ça ne soit pas fait. Mais après, si on me dit tout de suite, oh, il faudrait faire ça aussi, il faudrait faire ça aussi, l'élément de surprise dans une tâche, je n'aime pas ça.
Okay.
Je n'aime pas. Exemple, si on me dit, oh, tu veux-tu faire partie du comité administratif? Je vais être comme, OK, mais j'ai besoin de savoir c'est quoi les tâches. Qu'est-ce que vous voulez? Combien de temps vous voulez? Je ne peux pas juste dire oui, puis on verra rendu là. Ça, c'est des choses qui me génèrent un peu d'anxiété de ne pas savoir à qu'est-ce que je dis oui ou à qu'est-ce que, où est-ce que je m'en vais avec qu'est-ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? Donc, puis... Je sais pas si c'est juste moi, là, mais ça m'arrive souvent de faire comme, OK, attends, on va terminer ça, puis on y va avec le reste après. Mais bon, j'ai hâte de vous entendre vos histoires aussi, vous vous sentez un peu concerné par tout ça. Puis on parlait aussi de la santé, comme on disait tout à l'heure, ben justement, la santé, ça, c'est quelque chose qui génère beaucoup d'anxiété chez les gens. La peur de tomber malade, la peur de... recevoir un diagnostic qui pourra changer le restant de ta vie, des choses comme ça qui viennent avoir un impact dans nos vies. Et comme tu disais, ça joue dans les hormones, ça joue dans les relations, ça joue dans plein de choses de la situation que tu as vécue. Est-ce qu'il y a un moment donné que tu as dit, c'est quoi, il n'y a personne qui me comprend, est-ce que tu t'es senti seul ou c'est le fait que tu avais des gens autour de toi, tu t'es senti un peu mieux ou comment tu t'es senti? Est-ce qu'il y a eu un moment que tu as dit, je ne sais plus quoi faire?
Oui, je me rappelle quand le diagnostic est tombé, le deuxième, les traitements étaient sur la table. Tu sais, le médecin me disait, t'as cette option-là, il y avait plein d'affaires. Puis une d'entre elles, c'était de retirer l'utérus. Mais les médecins veulent tout le temps, comme, faut agir maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis j'entais une pression, puis vraiment, mon médecin, je l'aime beaucoup. Puis elle m'a dit, prends ton temps, mais on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est vraiment resté en tête. Puis je me rappelle, j'ai parlé malheureusement à quelqu'un par rapport à ça. J'ai dit, on est en train de me proposer, voici l'option du traitement.
Et puis la personne, qu'est-ce qu'elle t'a conseillé à ce moment-là?
Pour la personne, ça a été très facile de répondre et je ne m'attendais pas à cette réponse-là du tout. La personne, elle m'a dit, ben, enlève l'utérus, puis comme ça, tu vas avoir une vie. Puis ça va être plus facile de juste poursuivre. Ça a été un choc parce que je m'attendais zéro à ça. Puis c'est juste venu débousseler le restant de ma journée. Puis je me demandais, est-ce que je minimise qu'est-ce que je vis? Je prends juste trop à la légère? Est-ce que je devrais le prendre plus sérieusement? Il y avait plein de questions qui sont venues juste dans ce moment-là. Puis veux pas, toutes ces décisions-là, ça avait un impact à long terme, malheureusement. Puis j'étais juste pas en mesure de savoir qu'est-ce que je faisais. Puis je suis vraiment reconnaissante parce que... Oups!
Oui.
Parce que, tu sais, Dieu a mis des personnes proches qui étaient au courant. Puis je pouvais en parler avec ma mère. Ma mère m'a dit, finalement, c'est ta décision. Je pense que tu devrais faire ça, mais finalement, c'est toi qui décides.
Mm-hmm.
Puis finalement, j'ai pris la décision de juste attendre et essayer de faire un traitement parce que mentalement, je savais que j'étais pas prête à faire cette grande étape-là. Mm-hmm. Fait qu'on est allé avec l'autre traitement. Puis c'est là aussi que j'ai réalisé, arrête d'en parler. Mm-hmm. Parce qu'il y a personne d'autre qui comprend ce que tu vis. Puis ils vont tout prendre à la légère. Ou « Oh non, faut que tu crois en Dieu. » Ah, oh, c'est vite comme décision. T'es sûr que tu veux pas faire ça? Tu sais, tu vas avoir une vie. Fait que moi, c'est le fait de faire comme, t'as une vie après. Non, t'as pas une vie après. C'est un autre processus. Puis j'étais juste pas prête à le vivre. Fait que d'un côté, je sentais cette pression-là, des gens après ça, des personnes. Puis finalement, t'as pris quoi comme décision? Puis j'ai dû répondre aux personnes. Ça te regarde pas. Mm-hmm. Présentement, je peux pas en parler. Fait que ça, ça a été une autre étape aussi, de puis, juste comme en parler.
Non, exactement. C'est parce que c'est ta décision, c'est ton corps, c'est toi qui vas décider comment tu vas négocier avec tout ça, parce qu'il va falloir que tu mettes encore une fois tout sur la table, comme on disait, que tu puisses vivre un deuil s'il faut, ou vivre avec les conséquences des décisions que tu vas prendre. Et c'est sûr que j'imagine que tout ça, ça t'a généré de l'anxiété, comme tu disais, et de savoir, bon, qu'est-ce qui va se passer avec ça, mon futur et tout ça. Donc, comme je te disais, je sais que ça l'a amené ton anxiété à se développer aussi dans d'autres éléments. Puis ce que je trouve super intéressant et en même temps très, si on peut dire ça, malin dans le sens de l'anxiété, c'est qu'elle se développe, elle se propage dans d'autres niveaux de ta vie. À quel autre niveau de ta vie est-ce que ça t'a touché, cette anxiété-là? Sans nécessairement avoir avec le même sujet, mettons. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un impact qui s'est développé, par exemple?
C'est sûr que oui. Puis au niveau, même, je suis rendue agoraphobe, quelque chose que je ne l'étais pas du tout. Puis là, c'est rendu que dans un centre commercial, si je vois une foule, je ne me sens plus à l'aise. Des câlins de groupe, je ne suis pas capable. plein de petites choses comme ça que je me suis rendue compte, OK, non, ça vient me chercher, ça vient me chercher de l'anxiété. Puis c'est fou parce que c'est vraiment un moment où est-ce que je paralyse totalement. Tu sais, je me rappelle, on était à Miami il y a 2 ans, je pense, 3. Puis on marchait dans un quai. On s'entend, là, c'est à l'air ouvert. Puis il y a juste une famille, environ de 10 personnes, qui prenait vraiment tout l'espace du quai en marchant. Moi, je sentais qu'il n'y avait plus de sortie, que j'allais étouffer. Puis si ça ne serait pas de ma tante qui serait venue me prendre, je pense que j'aurais juste comme... Je me serais peut-être évanouie juste là. Mm-hmm. Fait que, mais même là, tu sais, par rapport à cette anxiété-là causée par agoraphobe, il y a du monde clé qui sont au courant que je l'ai. Fait qu'ils sont au courant que si on est dans un endroit puis tout à coup, on me voit plus ou que genre, ma face change, est-ce que ça va? Ils vont savoir quoi faire. Mm-hmm. Fait que moi, je pense que ça l'a déteint à ce point-là au niveau d'agoraphobe puis claustrophobe.
Puis qu'est-ce que tu sens dans ces moments-là? Parce que c'est quand même très similaire dans le sens de la claustrophobie et l'agoraphobie. C'est quoi que tu ressens? T'as dit, tu sens plus d'échappatoire ou tu sens plus que t'as de l'air? Donc,
je commence à avoir de la misère à respirer. Mm-hmm. Je sens comme si j'étouffe. On dirait comme si on prend mon air à moi, mon espace. Mm-hmm. Fait que c'est ça.
Est-ce que tu sens que t'as pas de sortie de secours?
Oui.
Tu sens que tu vas être prise, puis s'il y a quelque chose, tu vas être mal prise, c'est ça?
Exactement.
Ouais, donc j'ai vécu ça aussi à certains niveaux, comme tu le sais. Et même que ma femme, elle a commencé à s'en rendre compte parce qu'on allait même dans un restaurant. Puis une des premières choses, c'était que je regardais toujours qu'est-ce qui se passait. Ou comme, OK, mettons, la sortie de secours est par ici, la sortie dans... On est rentré par ici, mais si jamais il y a le feu qui prend par là, où est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'il y a une sortie de secours? Où est-ce que je vais me cacher? Si, mettons, il y avait eu un moment qui avait tellement de tireurs fous, si on peut, comme on dit, non? C'est le terme qu'on utilise, qui rentrait dans les écoles, qui rentrait dans les universités, dans les endroits publics. Donc, il y avait tout ça qui rentrait dans ma tête et j'avais fait des recherches là-dessus à l'université pour mes cours et tout ça. Et on dirait que ça l'avait pas aidé justement à mon anxiété parce que là, je commençais à penser, non, il faut voir ça, qu'il faut agir de telle façon, il faut essayer de voir ça. Il faut prévoir, il faut prévoir, il faut prévoir. Puis ça, c'est quelque chose que, en fouillant, en grattant au plus profond de moi, en essayant de comprendre, mais d'où ça vient cette inquiétude de vouloir savoir, il faut être prêt pour tout. Ouais. Il faut faire attention à ça. Mais, puis c'est drôle et en même temps, c'est un petit peu triste, si on peut dire ça comme ça, mais peut-être pas triste, mais c'est comme ça que j'ai grandi, en fait. Quand je commence à voir la façon de voir de mes parents ou de ma mère, dire comme, non, fais attention à ça, non, il y a toujours un danger, non, ici, puis toujours voir le danger ou les possibilités d'un danger, ça m'a fait être en sorte... Je sais que le cœur est à la bonne place et on veut essayer de protéger nos enfants, dire, oh, pense toujours, il peut se passer quelque chose. Oh, assieds-toi proche du chauffeur d'autobus ou tu sais, pour pas qu'il se passe quelque chose en arrière de l'autobus. Ou fait, puis c'est vrai, il y a des choses qui sont finalement arrivées, puis j'aurais dû écouter ma mère. Puis ça, c'est vrai. Mais il y a des choses qui m'ont fait avoir des craintes ou de l'anxiété générée par le fait de penser à il pourrait se passer ça.
Ouais.
Tellement fort ou intense que ça générait d'autres choses en moi. Exemple, passer sur un pont en conduisant. Je pensais à qu'est-ce qui se passe si le pont s'écroule. Et ça, c'était à chaque fois que je passais sur un pont. Et j'étais OK, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais briser la vitre? Comment je vais nager? Si je suis proche, de quel côté je dois nager? Si je suis au milieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là puis j'essaie de flotter? Est-ce qu'il y a du courant? Je regardais toutes les possibilités. Et ça, c'était n'importe quand. Hein. Si c'était un road trip ou un voyage en famille ou quoi que ce soit, on passait un pont, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais pour sauver ma famille? Ou qu'est-ce que je fais pour me sauver moi? Ou qu'est-ce que je fais? Et c'est incroyable. J'ai pas encore d'enfant. C'est bientôt, mais c'est quelque chose que je me suis dit, je ne voudrais pas avoir cette peur parce que je sens qu'on va vivre 2 ou 3 fois ou même beaucoup plus de fois les situations avant même qu'elles arrivent. Et le moment qu'ils vont arriver, ben voilà, c'est arrivé, il est tombé, il s'est fracturé quelque chose ou peu importe. Oui. Qu'est-ce qu'on va gérer? Bon, on va gérer ça. Quand on va gérer ça? Donc, mais c'est très difficile pour moi d'arriver à ce point-là, de dire, OK, ça doit être détaché de qu'est-ce que moi je peux faire ou qu'est-ce que moi je peux vivre, qu'est-ce que moi je peux être en train de... Je sais que c'est différent. De ton côté, c'est plus de la santé. Pour moi, c'était plus psychologique, si on peut dire ça. Une crainte de quelque chose qui n'est pas là.
Ouais.
Une anxiété qui a été générée par mon imagination ou la peur de quelque chose qui pourrait arriver. Ouais. Puis ça l'avait commencé à générer... une peur tellement intense que j'avais commencé à vraiment, vraiment avoir peur des ponts. Dire comment non. Et puis, non, je veux même pas voir l'eau. Puis, puis après ça, j'ai fait non, il faut que j'enlève ça. Puis, peu à peu, j'ai commencé à travailler ça. Puis, j'ai dit non. En passant le pont, j'ai dit, ah, il faut regarder, je sais pas moi, le paysage. Et dire, ah, oh, waouh, c'est beau. Ah, oh, regarde comment c'est beau. Puis, commencer à changer ça en moi, de dire, hey, c'est beau, là, c'est un gros lac, hein, c'est beau. Mais au début, je ne me croyais pas moi-même. J'étais comme, ouais, hein, c'est beau, hein, c'est waouh. Tu es en train de conduire, puis ouais, wow, tu as vu le paysage, oh, le soleil, tu essaies de focusser sur d'autres choses.
Est-ce que tu cherchais un peu de comme une réponse de l'autre personne, juste pour être sûr de toi, comme, ah, lui aussi, il pense que c'est
ouais,
ça.
Ouais, lui aussi, c'est beau, ah, waouh. Wow, oui, ben, c'est sûr que ça aide. Tandis que si tu vois l'autre personne un peu crispée, comme on dit, toute prise, ah, j'ai peur du pont, ça commence à jouer dans ta tête aussi.
Mais t'sais. Oui.
Tu dis, hop là, lui aussi, il a peur. Donc, là, si lui, il a peur, puis il ne sait pas quoi faire, ben là, je commence à penser à, OK, comment je le sauve lui?
Ouais.
Donc, ça pousse à d'autres choses. Mais ça, c'est juste un exemple du pont. Mais ça peut être n'importe quoi. Comme je disais, dans un restaurant, là, je mangeais, puis j'étais toujours en état d'alerte, ce qui me générait à être fatigué très rapidement par la suite, parce que je vivais des choses qui n'étaient pas arrivées. Et je vivais des sentiments ou de l'anxiété intense, n'est-ce pas? Donc, tout ça. Puis ça, c'est sans parler des études, parce que ça, c'est les études, c'est une autre histoire. Mais comme je disais, des examens ou des travaux à faire, puis est-ce que je suis assez bon pour... Est-ce qu'ils vont rire de moi à cause de mon accent? Est-ce que ça va être correct? Est-ce que je vais réussir? Quand il y a tellement de gens qui me disaient, oh non, mais tu sais, t'as un accent en anglais, puis tu vas devenir prof d'anglais, like, pour vrai? Puis, ah, puis t'es même pas bon en français. Like, tu sais, comment ça, tu vas être prof, ça marche pas. Donc, il y avait des gens qui te mettent des étiquettes, puis là, tu te dis, ah, mais là, c'est peut-être vrai, puis là, tu te mets en question, puis tu te génères de l'anxiété. Ben, si c'est pas ça, où est-ce que je m'en vais? Si c'est pas telle carrière, où est-ce que je m'en vais? Puis tu commences à. Puis si j'essaye ça, puis je ne réussis pas cela. On a tellement peur de fracasser dans la vie, parce qu'on se dit, oh, les gens, ils vont nous voir, ils vont dire, ils vont nous juger. Et c'est tellement plus présent maintenant avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui nous entoure, parce que tout le monde est en train de mettre un profil de les belles choses. Hein. C'est comme, ah, les mauvaises nouvelles, on dit, ah, bon, il est toujours en train de chialer, lui. On va le unfollow, on ne va plus le suivre.
On va le snooze pour 30 jours.
On va le snooze 30 jours, on va voir s'il change de vie, lui-là. Là. Puis c'est pas correct parce que, dans le fond, on essaie de voir simplement les belles choses. On n'aime pas savoir les choses négatives dans les réseaux sociaux, surtout des gens qu'on connaît. On dirait que c'est difficile de s'ouvrir et de dire « Hey, ça, c'est en train de m'arriver, c'est ce que je suis en train de vivre. » Puis c'est ce qu'on veut faire avec ce podcast, c'est vraiment essayer de parler de nos expériences positives et négatives, ou si on peut dire ça comme ça, ou de nos expériences qui vont nous faire grandir. Donc, essayer de voir « OK, ça, c'est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on va faire pour devenir meilleur? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un en partageant ça? » Un simple exemple. OK? Ah, oh, on m'a volé quelque chose dans mon auto. Ah ouais, qu'est-ce que tu as fait? Ben, il était là. Je l'ai caché. Je ne l'ai pas bien mis. Tu dois donner des conseils pour que la personne sache quoi faire aussi après. Exemple. OK? Tu l'as-tu déclaré? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Il faut qu'on puisse partager nos expériences pour que les gens sachent comment se préparer, dire, ah, tu sais, il y a telle chose qui t'est arrivée, qu'est-ce que toi tu pourrais me dire à ce sujet-là? Donc, est-ce que tu es prêt à t'impliquer dans ce sens-là? Et c'est là que je pense que tout ce qui est la religion, ou tu sais, l'Église en tant que telle, c'est là qu'on devrait être plus actif. Mm. On devrait être actif de pouvoir partager, hey, tu sais quoi, je suis pas parfait, j'ai vécu ça, et être honnête avec les gens et pas juste partager nos succès. Ou juste prétendre d'être quelqu'un avec plein de succès et pas parler du brisé qu'on est en réalité ou les choses qui nous ont fait qui on est, en fait. Parce que même les gens les plus riches ou les gens qui ont eu le plus de succès sont les gens qui ont aussi eu des moments dans lesquels ils ont vraiment fracassé dans leur vie. Ils ont vraiment fait comme, ah, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est les gens qui ont commencé à reprendre tout ça pour bâtir qui ils sont, pour bâtir leur carrière, pour bâtir, peu importe, leur podcast, leur show, peu importe qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans la vie, c'est comment on va prendre toute cette information-là qu'on est en train de vivre pour essayer de, OK, comment je peux devenir la meilleure personne, ou la meilleure version de moi-même avec Dieu et avec les gens autour de moi, avec ma famille. Et souvent, c'est ce qu'on laisse de côté. On dit, ah non, on a du temps, on va le voir la semaine prochaine. Oh, on va voir la famille un autre moment. Ou, oh non, on peut en parler un autre moment. On devrait plus parler des choses au moment qu'on les vit, parce qu'on va se rendre compte à ce moment-là qu'on n'est pas si seul. Et on va se rendre compte que peut-être qu'en parlant, on va s'entendre un peu mieux, puis on va pouvoir s'entraider le plus possible.
En effet.
Et ça va enlever de l'anxiété, de dire « Ah, oh, puis finalement, ça, puis tu vas te rendre compte que les gens autour de toi ne sont pas parfaits non plus. » Et personne n'est parfait, en fait. Il faut réussir à gérer tout ça et dire « Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? » C'est ce que je retiens de la conversation. Merci vraiment pour ce que tu nous as partagé. C'est vraiment intéressant, tout ce qui est la santé et tout ça, l'aspect psychologique, l'aspect mental de tout ce que tu as vécu, puis de dire « Bon, ça, c'est les mots que je mets ou les termes qu'il faut mettre à les choses que j'ai vécues.
Ouais.
Donc, c'est super important de le faire. Donc, si jamais vous avez des situations comme ça, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des choses qui se passent et il y a des façons de pouvoir passer au travers de tout ça. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide de vos proches, avec l'aide de vos amis, l'aide des gens, des podcasts, des gens qui vont pouvoir vous partager des choses. Si vous connaissez quelqu'un qui vit quelque chose de similaire, qui est en train de gérer l'anxiété ou il y a des problèmes d'anxiété, on vous invite à partager ce podcast. Peut-être que ça peut l'aider et ça peut aussi ouvrir une belle conversation de dire « Hey, c'est ce qui est en train d'arriver, j'ai entendu un podcast. » tu devrais l'écouter, dis-moi qu'est-ce que t'en penses, puis ça peut aider à ouvrir une conversation si on ne sait pas trop comment débuter la conversation, justement. Parce que souvent, c'est ce qu'on essaye, hein? On brise la glace par un « Hey, comment ça va? Oh, t'as pas l'air bien, qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. » Puis peut-être que la personne ne se sent pas prête, à, comme tu disais, ouais, à cause de tout ce qu'elle est en train de vivre. C'est peut-être pas la meilleure façon de parler ou de débuter une conversation quand tu vois la personne va pas bien, tu vas pas lui demander « Hey, salut, ça va? » C'est comme « Je pense que c'est clair que ça va pas. » Donc, c'est ça. Donc, merci encore une fois. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être un conseil. Je sais que tu en as déjà donné de s'approcher à quelqu'un d'autre ou peut-être quelque chose que tu as pensé. Ou peut-être même quelqu'un qui, admettons, quelqu'un qui voudrait parler de ça avec quelqu'un qui est en train de vivre une situation un peu similaire à la tienne, qu'est-ce que tu lui recommanderais?
Premièrement, informe-toi. Il y a du monde qui le vive. Puis c'est très tabou, malheureusement. Puis t'es pas le diagnostic que t'as eu. Fait que va chercher de l'aide. Écris-moi si tu veux. On peut en parler, ça me dérange pas. Mais c'est vraiment juste ça. Faut que t'en parles quand toi, tu es prête à en parler, puis mets-toi pas plus de pression que toi. C'est juste ça que je rajouterais.
Super, merci beaucoup.
Avant de terminer, j'avais juste... j'avais pensé à quelque chose durant qu'on parlait de...
Ouais, vas-y, Victor.
De les enfants et l'enfance, de parler devant quelqu'un.
Ouais.
Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous étiez stressé comme un enfant à parler? Parce qu'à un moment donné, les enfants... Quand ils sont petits, ils sont vraiment joyeux. Ils parlent à tout le monde. Ils s'en foutent qui est là devant lui. Ça peut être quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Il va parler.
Mm-hmm.
Mais à un moment donné, tous les enfants, tu peux demander à tout le monde, ils vont être stressés de parler devant quelqu'un ou s'exposer ou dire à quelqu'un ses émotions. Mais oui. ça vient de où?
Ça vient de où? Ben, s'il y a des recherches...
Est-ce que tu te rappelles?
Oui. Moi, personnellement...
Ouais.
Je pourrais pas te dire exactement quand, mais je sais que c'était aux alentours de 10-11 ans. Et ce que j'ai trouvé vraiment, mais vraiment intéressant, c'était que il y a une recherche qui dit justement que c'est à cet âge-là que l'anxiété commence à être générée chez les enfants d'une façon différente. Ils ont des anxiétés avant, par du rejet, par exemple. C'est ce qui commence à être un peu plus présent aux alentours de 10-11 ans, et peur du ridicule. C'est okay. Quelque chose qui fait en sorte que les enfants commencent à avoir peur de oh, qu'est-ce qui va se passer si je me trompe ou les gens vont rire. Puis là, on commence à avoir peur du ridicule. Et ça va jusqu'à l'adolescence.
Ouais.
Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui va... Il y a toujours une anxiété ou un stress, mais de vraiment avoir une anxiété de parler devant les gens, c'était dans mes exposés oraux dans lesquels je sais qu'il fallait que je présente quelque chose puis je me sentais pas trop prêt.
Ouais.
Et en même temps, j'essayais de me préparer le plus possible. Quand j'étais plus petit, j'essayais d'être prêt. Mes parents me faisaient mémoriser pratiquement les choses, mais ça me générait un stress de « qu'est-ce qui va se passer si j'oublie?
»
Puis je me rappelle très bien que c'est arrivé et là, c'était comme oh, « je devais me trouver des façons, des trucs. Ouais. » C'est surtout au secondaire que j'ai commencé à dire « ok, il faut que je me trouve des façons d'adresser la chose sans avoir trop à penser à si je me trompe. »
Ouais, moi aussi. Moi, primaire, j'étais vraiment stressé de le faire.
Ouais.
Mais à un moment donné, je sais pas pourquoi, dans ma mentalité, je parle de ces gens chaque jour. Je vais juste faire l'oral comme si je parlais à eux, mais juste tout le monde en même temps.
Mais je pense que ça dépend de chaque personne.
Ouais, ça, c'est juste moi. Moi, j'ai donné ce truc-là à plusieurs personnes, mais ils me disent « Ouais, mais ça, c'est toi. »
Ouais.
Je pense que oui, mais...
C'est ta façon de voir les choses.
C'est mon truc de ne pas être stressé. Après ce point-là, j'ai... Ah, il y a un oral? OK, 80 points de gratuit pour moi.
Ouais.
Parce que après ça, j'ai jamais été stressé.
Wow. Okay. Ouais, non, moi, c'était en troisième année. C'était ça, là. C'est un exposé oral. Je pense que c'était par rapport au castor, quelque chose du genre. Puis non, j'ai toujours détesté avoir l'attention en tant qu'intro, fait que... introvertie, pour ceux qui savent pas. Mais non, moi, je pense que j'ai toujours eu ce stress-là de parler devant les gens.
Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'avoir un sentiment de contrôle qui t'enlève cette anxiété. Dans ton cas, c'était ça. Tu disais, non, je vais parler devant eux comme si c'est mes amis. Tu as adressé la chose, tu as pris le contrôle de la situation, Et tu as dit, il n'y a rien là. Je vais parler comme si c'est mes amis. Le moment que tu dis, je vais parler comme si c'est mes amis, comme ce podcast, je vais parler comme si c'est mes amis, je suis plus moi-même. Je suis moins stressé à devoir projeter quelque chose que je ne suis pas. Et c'est la même chose que tu as fait. Tu as dit, ben, moi, je vais être moi-même. Puis si je me trompe, ben, regarde, on verra ce qui se passe. Puis je perdrai des points. Mais le moment que tu fais ça, tu prends le contrôle de la situation et tu te dis, bon, on va vivre avec les conséquences pratiquement. Et ça, ça enlève un lourd poids d'anxiété, ouais, si on peut dire ça, de tes épaules ou de ta tête. Et tu dis, bon, on va dealer, si on peut dire ça. On va gérer la situation du mieux qu'on peut.
Moi, j'ai eu cette idée parce que quand tu as dit que tout le monde l'avait,
ouais,
j'ai eu l'idée instantanément. Je suis comme, ouais, tout le monde l'a parce que tout le monde, à un moment donné, est stressé à parler.
Oui, il y a quelque chose qui se passe,
ouais, ça arrive naturellement,
qui génère ça. Donc, c'est vrai. Donc, et c'est des genres d'anxiété ou de stress qui peuvent venir de tellement d'aspects. Et c'est pour ça que je tenais tellement à partager ce que moi, j'avais vécu comme anxiété, qui est totalement différent à ce que ma sœur a vécu avec tout ça. Non? Donc, ouais, c'est plus du côté de santé, c'est plus le côté de comme moi, je pensais à des idées ou des choses imaginatives qui n'étaient pas en train d'arriver. Mais c'est la même chose. Quelque part, ça vient se rejoindre. Puis ça part tout d'un moment. On a tous un moment qui fait comme, OK, ça, c'est ce qui nous a affectés d'une façon qui nous a rendu plus alerte ou en train de dire, qu'est-ce qui va se passer si jamais je ne réussis pas à ça? Puis le but, c'est vraiment qu'on puisse faire attention à tout ça et dire, OK, non, il y a des choses qu'on a le contrôle, il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Ben, on va le contrôler. Puis les autres choses, ben, on va prier à Dieu pour que le reste soit correct. Ouais. Si tu ne crois pas en Dieu, ben, OK, tu peux dire, ben, on verra qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, c'est vraiment... on vit tous du stress, on vit tous une anxiété, que tu sois chrétien ou pas. Je crois que c'est important qu'on puisse l'adresser, que ça ne soit pas tabou, qu'on puisse le dire, qu'on dise, je suis chrétien ou je crois en Dieu, mais ça n'empêche pas que je vis de l'anxiété.
Ouais.
Parce que même si la parole me dit de ne pas le vivre ou d'essayer de vivre au jour le jour, c'est normal comme humain qu'on a une peur de qu'est-ce qui va se passer.
Ouais, c'est pas de manque de la foi ou
c'est pas un manque de foi, non.
C'est juste normal, c'est juste quelque chose que tout le monde va vivre. Et Dieu est là pour nous aider à continuer notre vie et à améliorer et nous donner du support, littéralement.
Oui, parce que c'est comme on disait, le fait d'en parler. Qu'est-ce que tu fais dans une prière? Tu mets des mots à tes sentiments.
Ouais.
Tu mets des mots et tu dis à Dieu, je me sens vulnérable. Je suis en train de vivre cette situation-là. Prends le contrôle de ça. Puis c'est ce qu'on fait avec la religion. C'est ce qu'on fait avec quand on prie à Dieu. Puis quand on sait qu'on a une croyance fervente, de dire, je sais que Dieu est en train de m'écouter. Et le moment que tu le dis et tu déposes ta foi en lui, où tu commences à dire, OK, Dieu est en contrôle de ma situation, c'est là que tu dis, ah, OK. Donc là, tu commences à laisser les choses aller, puis tu dis, Dieu va prendre le contrôle de tout ça. Puis il y a des choses que je peux contrôler, je peux essayer de la faire, mais il y a des choses que ça ne vaut pas la peine d'essayer même de les contrôler, parce que sinon, ce que ça génère, c'est un stress.
Ouais.
C'est comme, il y a des gens qui ne vont même pas sortir ou prendre une voiture pour me dire, ah, ça se peut que j'aie un accident. C'est comme, OK, mais il y a tellement de voitures à l'extérieur.
Ou
je ne vais pas prendre l'avion parce que ça se peut qu'il s'écrase. C'est comme, OK, mais c'est une probabilité, ça se peut. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter de vivre. Et c'est là que l'anxiété, c'est très sérieux, parce que le moment que ça change ta façon de vivre, c'est là que ça peut être très, très, très dangereux. Et c'est là que ça devient plus sérieux. Parce que tu t'empêches de faire des choses dues à l'anxiété qui est en train de dire, « Hey, ça se peut que ça arrive. »
C'est pas arrivé. Très important à ce moment-là d'aller en parler à un médecin.
Exactement. Puis il faut en parler à quelqu'un qui va pouvoir...
médicaments pour. Là.
Oui, rendu là. Et même là, il y a des choses qu'on essaie de régler avec des médicaments. Puis je veux pas embarquer dans ça, mais c'est des choses qui sont émotionnelles. Donc, c'est quelque chose d'émotionnel qui vient prendre la place dans ta vie, puis on essaie de gérer ça avec des médicaments. Donc, c'est comme contre-productif, si on peut dire ça, ou contradictoire, de dire on va régler quelque chose comme ça. Puis je sais qu'il y a des impacts. Tu peux prendre un médicament et ça va te calmer. Et ça... Oui, c'est vrai, mais il y a des choses que tu peux faire pour éviter d'en arriver là. Et c'est ça que qu'on voulait partager aujourd'hui, vraiment, de dire, OK, il y a des choses que tu peux faire avant même d'arriver à devoir prendre des médicaments. Il y a des choses que tu dois en parler, tu dois mettre le doigt, comme on dit, dessus pour savoir, OK, c'est ça qui est en train d'arriver. Donc, si jamais vous en avez besoin, on est rejoignable par Hafetz Coffee Break sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et également le courriel de ma sœur qui va être dans la description. Vous allez pouvoir lui écrire et nous rejoindre si vous avez des questions, des commentaires ou peut-être même un sujet que vous voudriez qu'on traite dans cette table autour d'un bon café. Merci Yemina.
Ça fait plaisir, merci à toi.
Et merci Victor encore une fois d'avoir été là. Et on se revoit la prochaine fois dans un autre épisode de Hafetz Coffee Break. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.